Donc cet après-midi, on parlera de la prière. Et ce matin, il m'a semblé que c'était bien de parler de l'un des sous-chapitres de la prière, c'est-à-dire la louange. Si vous voulez, je vous dis un peu les grandes idées du message, un peu le plan. Donc ce n'est pas une exhortation simplement à louer Dieu davantage, même s'il est possible qu'à la fin vous ayez plus envie de louer Dieu. Nous ayons plus envie. La première chose sur laquelle je voudrais développer, c'est... Donc je dirais quelques mots d'introduction, mais ensuite le premier point, c'est que c'est Jésus qui modèle notre louange. Aux deux sens du mot « modeler ». La deuxième chose, c'est nous arrêter un petit peu sur que recouvre le mot louange dans le Nouveau Testament. Quand le Nouveau Testament emploie ce mot, qu'est-ce que ça recouvre? Et la troisième, c'est parler un peu du chant en Église. Toujours. En fait, je vous fais une étude biblique, hein. Même le matin. Hein. Deux précisions pour introduire. La Bible emploie le mot louange parmi beaucoup d'équivalents. La reconnaissance, le remerciement, donc l'action de grâce, et puis célébrer, même publier ses hauts faits, bénir Dieu, l'exalter, etc. Le magnifier. Donc il y a beaucoup de mots. Alors, dans la culture actuelle, on emploie le mot louange presque uniquement pour parler de chant et de musique, principalement. Mais bien entendu, dans la Bible, c'est beaucoup plus large. En fait, la Bible inclut la louange dans la prière, c'est-à-dire tout ce qui est adressé à Dieu. Si vous voulez, on en conclura que prier a beaucoup de formes. On développera ça cet après-midi, mais énormément de formes de prier. Même le silence est prière. C'est écrit quelque part, pour toi, le silence est louange. Un soupir, c'est une prière. Et les prières de demande, les prières de remerciement, de louange. Donc, la prière a beaucoup de formes, elle prend plusieurs formes. Louer Dieu n'est qu'une de ces formes. Louer Dieu prend beaucoup de formes. Chanter n'est qu'une de ces formes. Et chanter prend beaucoup de formes. En Afrique, ils ne chantent pas comme nous. Jean-Philippe, il me raconte que dans les réunions, ils font « you, 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 you » comme ça. Ben, alléluia. Chanter prend beaucoup de formes. La musique n'en est qu'une partie. Donc, si vous voulez... Toute notre prière, c'est-à-dire relation à Dieu, si je la compare à une grande maison, si vous prenez l'ensemble de la maison, tout, y compris les couloirs, tout, les combles, tout ça, c'est notre vie de prière, écouter Dieu et lui parler. Parce que prier, c'est écouter Dieu, pas seulement lui parler. Rendez-vous cet après-midi. Toute la maison, c'est la prière. La louange, c'est une des pièces. Dans cette pièce, il y a une grande armoire. C'est le chant. Et dans le chant, il y a de la musique. Dans l'armoire, il y a un coffret. C'est la musique. Donc, si vous y tenez, c'est un coffret de CD. De louange. Voilà. Alors ça, c'était une première précision, ça situe. Et maintenant, une deuxième précision, théologique celle-là. La louange existe dans le cadre d'une alliance. Voilà. Si vous voulez, c'est l'alliance qui détermine le contenu de la louange, les paroles qu'on dit et le cœur qu'on a. Vous savez, quand les anges apparaissent aux bergers et que qui louent Dieu, d'abord un, puis après toute une multitude. Donc après, ils vont à Bethléem, ils voient Jésus qui vient de naître, etc. Et il est marqué, donc c'est Luc 2, il est marqué au verset 20, que je vais le lire correctement. Et les bergers, donc Luc 2, verset 20, et les bergers s'en retournèrent en glorifiant Dieu, pardon, en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Ils ont vu Jésus enfant. Ils le louent parce qu'ils ont vu. Mais ce qu'ils ont vu venait de ce qui leur avait été dit. Et en fait, ce sont les paroles de Dieu et ses œuvres qui font le contenu de nos louanges. D'accord ? Et ces paroles et ces œuvres, appliquent son alliance. Et que ce soit l'alliance de Moïse, qui reprend celle d'Abraham, mais l'alliance de Moïse, ou que ce soit l'alliance avec le Seigneur Jésus, c'est l'alliance qui détermine notre louange. Alors, vous connaissez, j'imagine par cœur, Apocalypse 15, verset 3, il chante le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Alors, pourquoi Moïse ? Pourquoi pas Abraham ? David, oh, David, quand même lui, il en a écrit des louanges. Alors pourquoi dans l'Apocalypse, c'est le cantique de Moïse et de l'agneau? Mais parce que les deux seuls êtres humains auxquels la Bible donne, que la Bible qualifie de médiateurs d'une alliance, c'est Moïse et Jésus. Moïse était médiateur d'une alliance et Jésus est médiateur de l'alliance qui accomplit et en plénitude la première. Et donc c'est pour ça, ils chantent le cantique de Moïse et de l'agneau, c'est-à-dire ils chantent ce que l'alliance dont ils ont bénéficié contient. On chante le contenu de l'alliance. Et c'est ce qu'on a fait ce matin. Quand on chante la croix, on chante le contenu de l'alliance. Et quand on chante son amour et le fait qu'il nous a adoptés, on chante le contenu de l'alliance. Ce que Dieu a dit et qu'il a fait, c'est ce qui fait notre louange. Alors, qu'est-ce qu'il faut retirer de ça ? C'est que pour louer Dieu, la première chose à faire n'est pas de chercher dans mon cœur des motifs de louange. Et c'est une bonne nouvelle, ça. Parce que ça veut dire que si j'arrive avec un cœur débordant ou si j'arrive avec un cœur endolori et tout recroquevillé, nous sommes égaux pour louer. En vérité, nous avons les mêmes données, parce que pour louer Dieu, donc je ne cherche pas d'abord dans mon cœur, mais je cherche dans l'alliance, dans ses paroles et ses œuvres. Amen. Alléluia. Voilà. À celui qui nous aime et qui nous a déliés de nos péchés par son sang. On chante le contenu de l'alliance. Ou on le dit si on ne chante pas. Alors, une remarque en passant encore. Le fait de louer Dieu, en chantant ou pas, avec musique ou pas, le fait de louer Dieu, d'après l'Alliance, nous oblige, nous mène à louer Dieu tel qu'il est, et non pas un portrait que l'humanisme a idéalisé au sujet de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça pourrait signifier. Non. Dieu n'est pas positif. Il est juste. Dieu n'est pas positif, il est vrai. Dieu dit des choses négatives. Très tôt, si tu en manges, tu mourras. Ce n'est pas positif. Vous prenez les débuts de la Genèse, qui c'est qui a dit des paroles positives? C'est le diable. Vous ne mourrez pas. Ah, ça c'est positif. Vous serez comme des dieux, mon pauvre, ça c'est positif. Voilà, c'est l'apôtre Pierre qui dit, si vous invoquez comme père, amen, celui qui juge justement, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. C'est-à-dire que nous louons le Père qui est aussi le juge. Alors, ce n'est pas le message du jour, mais le fait que Dieu juge, c'est une très bonne nouvelle. Parce qu'il n'y a que le juge qui peut acquitter. Donc, une autre fois. Vous savez qu'en hébreu, Abba, ça ne veut pas dire papounet. Ça inclut une immense affection. Mais c'est plein de respect pour le Père. Voilà, ça c'est une remarque. Alors maintenant, tout ce que je vais dire ensuite découle du fait que c'est l'alliance qui détermine notre louange à Dieu. Alors, une partie maintenant, on va s'arrêter un petit moment sur que dit Jésus et sur le fait que c'est lui qui modèle notre louange, c'est-à-dire qui lui donne sa forme, son contenu. Et bien sûr, c'est lui qui sert de modèle à notre louange. À ce sujet, bien sûr, nous le savons, Jésus loue Dieu. Jésus loue Dieu. À ma connaissance, il n'est pas écrit que Dieu loue Jésus. Mais Jésus loue Dieu. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Vous voyez, ce n'est pas positif ça, que Dieu cache des choses. Et de ce que tu les as révélées, et ça c'est la grâce, aux petits-enfants, je te loue. Je dois avouer que en retravaillant ce message pour aujourd'hui, ça m'a vraiment frappé ça, le fait que Jésus loue Dieu. Et je ne sais pas trop tout ce que ça implique. Mais pour le moment, il y a une chose que ça me dit. Ça me dit à quel point Dieu est digne de louange. Si même Jésus, qui n'a pas été sauvé, qui n'a pas été créé, qui n'a pas, enfin, etc. Hein, si même Jésus, le Fils éternel, loue Dieu, alors ça me dit beaucoup sur à quel point Dieu, le Père, est digne de louange. C'est impressionnant. Beaucoup plus que nous ne le ressentons. Alors, je ne suis pas en train de dire que quand on loue Dieu, il faut oublier que nous, on a été rachetés. Pas du tout. C'est même écrit dans la Bible de ne pas l'oublier. L'apôtre Pierre dit, et ceux qui tournent mal, c'est parce qu'ils ont mis en oubli le fait que leurs péchés ont été purifiés. Donc, bien sûr que nous louons par rapport aux bénéfices que nous avons reçus, mais on le sait bien, pas seulement plusieurs fois ce matin dans la bouche des uns ou des autres, je merci pour qui tu es. Et en vérité, et la Bible le dit, Romains 1 le dit, en vérité, tous les hommes doivent la louange à Dieu. Même ceux qui ne sont pas sauvés encore. Ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, mais ils ont pris des images de quadrupèdes, des animaux, de ceci, et ils sont prosternés devant les images. Ils ne l'ont pas loué comme Dieu. Ok, donc, Jésus nous donne un modèle de louange sur en deux directions, ou sur deux rails, si vous voulez. De louer Dieu de deux manières, une plutôt objective et une plutôt subjective. Objective, c'est-à-dire c'est comme ça, c'est toi qui l'as fait, et subjective, c'est toi qui l'as fait aussi, mais par rapport à moi, dans mon expérience, c'est-à-dire lié au sujet. Là, le sujet, c'est celui qui prie. Donc, les deux sont connus. Le premier, c'est celui que je viens de citer, je te loue, de ce que tel a été ton bienveillant dessein. Et quand on loue Dieu pour son dessein, nous, on n'y est pour rien du tout. J'imagine que c'est clair pour tout le monde que le dessein de Dieu ne tourne pas autour de nous. Nous ne sommes pas le centre du dessein de Dieu. Le dessein éternel de Dieu, ce n'est pas nous, c'est son Fils. Son dessein éternel, Éphésiens 1, verset 10, c'est que tout soit soumis au gouvernement de Christ, de tout récapituler sous une seule tête, Christ. Alors c'est là que nous apparaissons. Mais le dessein éternel, le cœur éternel de Dieu, il ne tourne pas autour de nous, il tourne autour de son Fils. Et nous, joints à lui. En lui, je suis fils, sans lui, je ne le suis pas. En lui, je suis adopté, sans lui, je ne le suis pas. Etc. Donc, louer Dieu pour son dessein, c'est quelque chose. Jésus nous donne ce modèle. Et le texte précise, soit Luc 10, soit Matthieu 11, je crois, que Jésus, il en tressaute de joie. Ça veut dire que le modèle que Jésus me donne, c'est une joie immense dans la louange pour quelque chose qui, en premier, ne tourne pas autour de moi. Alors, je suis comme vous, quand je viens de dire ça, je suis le premier auditeur de ce que je viens de prononcer. Et bien sûr que ça me remet en question. Est-ce que je bénis Dieu uniquement pour les bénéfices que j'ai vus, même les bénéfices éternels? Alors, non pas qu'il soit noble de s'oublier soi-même, c'est pas ça que je veux dire. Ce qui est noble, c'est d'imiter Jésus. Et Jésus loue Dieu pour son dessein. Ensuite, Jésus donne un autre modèle de louange, on le sait par cœur aussi, c'est dans Jean 11, c'est quand il ressuscite Lazare. Et il dit, je te loue de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de ceux qui m'écoutent. Et là c'est subjectif dans le sens où Jésus nous donne le modèle de louer Dieu pour un exaucement précis, ponctuel d'aujourd'hui. Donc, dans la liste des merci pour, il y a des choses qu'il m'a données aujourd'hui, ce matin, hier, etc. Il y a des choses qu'il m'a données il y a longtemps, mais qu'il m'a données à moi. Et puis, il y a lui. Voilà. Donc, voilà un peu les deux rails. On loue Dieu pour son dessein et on loue Dieu pour des exaucements dont nous avons précis, dont j'ai bénéficié ou bien dont un proche ou ma famille ou mon église locale a bénéficié. Voilà. Alors il est évident que pour louer Dieu pour son dessein, de loin, la plus belle manière de le faire, c'est de le louer avec les mots de l'Écriture. Ce que nous ne faisons pas suffisamment, spécialement dans les chants. Et puis, bien entendu, la Bible parle de le louer avec nos mots à nous, en toute liberté et avec joie. Et les deux s'entremêlent. Amen. Alors, rapidement, je le cite, je ne vais pas m'arrêter longtemps, mais quoique. Matthieu 21, verset 26. Jésus parle. À Dieu. Une erreur, verset 16. Non, il y avait une erreur, mais pas dans mes notes, dans ma tête. Donc c'est quand il y a après les enfants qui crient là, Hosanna dans le temple, Hosanna au fils de David, des enfants, et il y en a qui viennent et qui disent, fais-les taire, parce que fils de David, ça veut dire Messie, pour eux. Enfin, pour eux. Fais-les taire. Et Jésus, il dit pas non, je ne les fais pas taire. Et qu'est-ce qu'il répond? N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Ce qui, dans la région, s'est vu littéralement. Des nouveau-nés parler et louer Dieu et prophétiser. Et littéralement, c'est tu as formé des louanges, tu as façonné des louanges de la bouche des enfants. Et voilà ce que Jésus m'enseigne sur ma vie de louange, c'est que c'est Dieu qui la façonne dans mon cœur et sur mes lèvres. Il les tire, il les forme. C'est pas seulement qu'il les fait sortir, il détermine le contenu. Il détermine mon cœur. C'est pourquoi nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dieu nous fait ressembler. Il détermine ce que je deviens, donc mon cœur, donc ce qui sort de mon cœur, donc mes mots. Amen. Voilà. Dans le ciel, la louange résulte du fait qu'il y a quelqu'un sur le trône. Voilà. Si on se pose la question, pourquoi il y a de la louange ? Eh ben, dans la, toute la Bible, parce qu'il y a Dieu, c'est tout. C'est élémentaire. C'est tellement élémentaire que quand on aura fait tous les progrès du monde spirituel, on n'aura encore rien trouvé de mieux. Parce que plus c'est simple, plus c'est profond. Il y a de la louange parce qu'il y a quelqu'un sur le trône. Tout simplement. Et donc, on connaît par cœur aussi, j'espère, Apocalypse 19, verset 5, une voix sortie du trône. Louez notre Dieu, vous, tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. La voix sort du trône. Voilà. Dans le ciel, la louange résulte de là. Et sur la terre, pareil. Vous connaissez aussi, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Ce qui ne signifie pas, attention, et ça apparaîtra aussi cet après-midi, etc., ça ne signifie pas que quand on loue, ça met Dieu sur le trône. J'espère que personne ne pense que c'est lui qui met Dieu sur le trône. Même pas sur le trône de son cœur. C'est lui qui vient. Après, pour ce qui est du trône de mon cœur, il me demande quand même. Voilà. Ça ne signifie même pas qu'on le fait venir. Ce n'est pas parce qu'on le loue qu'il vient à la réunion. C'est parce qu'il est là que nous, on vient à la réunion. Donc, tu sièges au milieu des louanges d'Israël signifie ton autorité de roi suscite autour de toi la louange des tiens. Tu sièges au milieu des louanges. Là où tu es, ça produit de la louange. Amen. Après, bien sûr que quand on le loue, nous, on devient davantage conscient du fait qu'il règne. Mais on ne le fait pas régner. Amen. Alors, encore une belle chose. Ça va jusque-là? Hébreux 2, verset 12, cite le psaume 22, verset 22 ou 23 selon les versions. Je te louerai au milieu de l'assemblée. Et Hébreux explicitement attribue cette parole à Christ, comme Pierre dit que l'Esprit de Christ était dans les prophètes anciens quand ils ont prophétisé ce qui devait être écrit. Et le psaume 22, on le sait que c'est un psaume messianique. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et le verset 22 ou 23, selon les, c'est la charnière du psaume. Et là commence à retentir une louange parce que après le sacrifice viendra le salut, la victoire et le salut. Et donc, Jésus dit, le Messie, l'agneau de Dieu, dit. Je te louerai au milieu de l'assemblée. C'est Jésus qui entonne la louange de son peuple. Au sens littéral du mot entonner, c'est-à-dire qui donne le ton. Alors ici, je ne pense pas premièrement au sol ou au la ou au mi bémol, mais qui donne le ton, qui détermine et qui fait qu'elle sonne et qu'elle est belle. Jésus est loué. Dans l'Apocalypse, Qu'est-ce qui est dit, ça on le sait par cœur aussi, Apocalypse 5, verset 13, hein, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, puissance, force, etc. Ce n'est pas écrit de l'esprit, par exemple. Nulle part. Nulle part il est écrit que l'esprit est loué. Il n'est pas non plus écrit qu'il est prié. Mais à Dieu assis sur le trône et à l'agneau. Donc Jésus est loué par tous ses rachetés. Et en même temps, c'est lui qui entonne la louange de ses rachetés. Il donne le ton. Amen. Voilà. Et il y a un verset qui m'a beaucoup frappé, ça fait pas très longtemps, là, sur les derniers 2-3 ans, que je n'avais pas vraiment noté précédemment. Voilà, ça ne me faisait que 40 ans de retard. On passe toute sa vie à découvrir les merveilles de Dieu. Apocalypse 14, verset 3, il chante un cantique nouveau devant le trône. Personne ne pouvait apprendre le cantique sinon les racheter. Waouh! Parce que ceux qui ne sont pas rachetés, eh bien, Jésus n'entonne pas dans leur cœur. Et donc, ils ne peuvent pas apprendre le cantique. Et ce cantique dont là, en l'occurrence, il n'y a pas les paroles, mais d'une certaine manière, je connais les paroles de ce cantique. C'est l'alliance de Dieu. C'est l'alliance de Dieu, les paroles de ce cantique. Eh bien, ce cantique, quand nous louons Dieu, il y a une sonorité de vérité. Parce que nous le louons pour ce qu'il a dit et ce qu'il a fait, ça c'est vrai, mais aussi parce que nous sommes vraiment sauvés. Nous avons vraiment cru. Nous nous sommes vraiment repentis. Il nous a vraiment appelés et nous avons vraiment répondu et nous sommes vraiment ses enfants. Nous sommes vraiment à lui. Et donc nous le louons en esprit et en vérité. Même si ça, c'est Jésus le dit pour l'adoration, qui est autre chose que la louange. Si besoin, je le préciserai. Qui aimerait que je le précise? En quoi adorer est différent de louer? Bon, je le ferai un peu plus tard, d'accord? Non, juste parce que je ne veux pas faire trop de choses à la fois. Cette bonne odeur que Dieu peut respirer quand nous sommes reconnaissants, hein, psaume 50, en sacrifice à Dieu, offre la reconnaissance. Cette bonne odeur que Dieu peut respirer, pourquoi elle est bonne? Parce qu'elle est vraie. Et pourquoi elle est vraie? Parce qu'on est racheté. Amen. C'est la même idée quand Paul dit aux Colossiens, Colossiens 3, 16, « Sous la grâce, virgule, chantez à Dieu. » Alors c'est traduit en français « sous l'inspiration de la grâce ». Littéralement, « sous la grâce », c'est-à-dire c'est elle qui produit les choses. Amen. Voilà. Jésus chantait. J'ai dit que la louange, ce n'est pas que chanter et pas que musique, je le redirai tout à l'heure. Mais Jésus chantait. Il chantait quoi? Dans les textes, hein? Il ne s'agit pas d'imaginer. Pardon? Oui. Alors, donc, par exemple, Matthieu 26, verset 30, après avoir chanté les psaumes, et donc c'est là où il y aura après, il y a Gethsémané après. Et c'est donc très probablement les psaumes 113 à 118. Et le 136, et là-dedans, il y a tellement de choses qui le concernent lui, mais bon, je ne vais pas... voilà. La seule chose qui est rapportée dans les textes concernant le fait que Jésus chantait, c'est qu'il chantait l'Écriture. Voilà. Alors on peut imaginer qu'enfant, il chantait des comptines comme les autres. Et à un moment, il en parle d'ailleurs. Il dit, les enfants, il dit, vous êtes comme les enfants qui, les uns, ils chantent, mais pour le deuil, vous n'avez pas pleuré, nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé, etc. Donc, je ne suis pas en train de dire que Jésus n'a pas chanté différentes chansons comme d'autres dans la famille. C'est pas ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a ce qui est écrit et ce qui n'est pas écrit. Ce qui n'est pas écrit n'est pas normatif et ne doit pas être forcément reproduit. Par contre, ce qui est écrit est normatif. Et encore plus quand ça concerne ce que Jésus a fait, ou était, ou dit. Donc, Jésus chantait l'Écriture. Amen. Et les psaumes, ils sont enracinés dans quoi? Dans le Pentateuque. Et pas seulement le psaume 78, qui est long et qui reprend tout, qui fait référence à toute la création, l'Égypte, enfin, c'est impressionnant. Voilà. Jésus chantait l'Écriture. Autrement dit, donc psalmodier, ça signifie chanter à Dieu et chanter Dieu. Avec ou sans instrument, ça ne change pas le sens. C'est psalmodier. Psalmodier, c'est chanter à Dieu et chanter Dieu, le chanter lui. Voilà. Amen. Mais rien que jusque-là, je suis content. Pas de la manière dont j'ai parlé, je suis content parce en parlant comme ça, on honore notre Seigneur Jésus. On s'attache à comment il parle de la louange, comment il a fait. Voilà. Amen. Et donc, Seigneur, notre prière, c'est que tu continues à modeler notre louange à la ressemblance de la tienne. Amen. Évidemment, il y a beaucoup de choses dans la louange de Jésus qui sont pas dans notre bouche et beaucoup inversement aussi. Nous, on loue Dieu pour sa patience envers notre étroitesse d'esprit. Jésus, non. D'accord? Etc. Alors, dans le Nouveau Testament, que recouvre le mot louange? Alors là, en fait, c'est juste, c'est factuel. Cette partie du message, c'est factuel, les faits. Voilà. Alors, première chose, dans le Nouveau Testament, la majorité des louanges ne sont pas des chants. Ne sont pas des chants. Vous allez dire, attends, tu as fait 10 km pour nous dire qu'il ne faut pas chanter. Non, je viens de dire que même notre Seigneur chantait. Mais, donc le Nouveau Testament emploie 20 fois le mot louange ou le verbe louer, plus tous les équivalents. Hein. Du coup, ça fait beaucoup plus. Célébrer, glorifier, etc. Donc, beaucoup plus. Mais si je prends les 20, sur les 20 fois, il y a une fois où c'est relié au chant. C'est Paul et Silas en prison. C'est-à-dire, quand vous avez le mot louange dans un verset, ou le verbe louer, le verset ni le contexte, ne 19 fois sur 20, ne le relie pas au chant. Et la proportion est comparable avec les mots équivalents, hein, célébrer, etc. Alors, cela signifie, non pas qu'il ne faut pas chanter, mais que la louange à Dieu consiste moins en chant qu'en parole et même en silence. Et alors, bon, on a cité, hein, quand Jésus dit Je te loue, Père, Matthieu précise, Jésus prit la parole et dit Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Et là, il chante pas, il parle. Voilà. Luc 19, la multitude des disciples, saisi de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ou bien Hébreux 13, des lèvres qui confessent son nom. Je ne peux pas préciser s'ils chantent ou pas. Et puis, bien sûr, Apocalypse 5, verset 12, ils disent d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir, etc. Alors, Pourquoi je le relève? Je pense que vous devriez savoir pourquoi je le relève. Mais en vérité, je le relève juste parce que c'est comme ça. C'est écrit comme ça. C'est écrit comme ça. Et la Bible est bien écrite. Est bien écrite. Et donc, la prendre comme elle est, il y a forcément des bénédictions. Alors, ceci dit, dire pourquoi je le relève va trouver une réponse un peu plus concrète dans la remarque suivante. Quand le Nouveau Testament parle de louange, c'est surtout, en grande majorité, la louange hors réunion d'église. Voilà. Et là, ça explique aussi pourquoi c'est beaucoup de paroles et pas toujours des chants. Parce que hors réunion, ben, par exemple, je passe 8 heures par jour au travail. Bon, des fois, selon mon métier, je peux chanter. Si tu travailles dans un atelier d'ébéniste, en plus devant la scie à ruban qui fait un rafut impressionnant, tu peux même chanter à tue-tête. Ça ne dérange personne. Voilà, après, si tu travailles dans un bureau avec... Bon, voilà. Mais dans ton bureau, tu peux louer Dieu avec toutes sortes de paroles et de silence. Après, tu veux... probablement, quelqu'un dira, tu peux chanter en silence dans ton cœur. Oui, amen. Et je le fais. Alors, la majorité des textes qui mentionnent la louange, l'action de grâce, la célébration, etc., etc., glorifier Dieu, évoquent, les textes parlent de la vie courante. Et on creuse le contexte, il ne s'agit pas de réunion. Et ça, évidemment qu'il faut l'entendre. Évidemment qu'il faut l'entendre. On le sait, notre louange en réunion est l'expression collective d'une louange qui est la nôtre tous les jours. Amen. D'une reconnaissance, un cœur reconnaissant. Malheur à moi si mon cœur n'est reconnaissant à Dieu que le dimanche de 10h à midi. Amen. Voilà. Et de même, quand le Nouveau Testament mentionne le chant, parce qu'il le mentionne, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, ils ne sont pas en réunion. Ou alors si, c'est une réunion de prisonniers, et ils sont deux qui chantent. Plus tard, ils chanteront plus nombreux. Parce que c'est super, hein, voilà, acte 16. Mais ils ne sont pas en réunion d'église. Je te confesserai parmi les nations, je chanterai en l'honneur de ton nom. Ça veut plus dire je te chante au jardin de la fontaine que je te chante dans la... Amen. Voilà. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Jacques 5. Il ne s'agit pas de réunion. Après, c'est permis d'être dans la joie, juste, ça tombe bien, pendant une réunion. Alors, on peut participer au chant des cantiques. Mais est-ce que ça va? Je vous déroute là? Personne n'est saisi d'un désarroi imprévu. Une petite remarque en passant. Comme dans les psaumes, en Église, le chant exprime souvent autre chose que de la louange. Il y a des chants qui ne sont pas de la louange, qui sont chercher Dieu. Il y a des chants qui sont « dire à Dieu notre peine », « dire notre foi ». Si on chante, je ne sais pas si quelqu'un l'a fait, mais j'imagine depuis les siècles et les siècles, mettons le credo, le symbole des apôtres, non, ce n'est pas la même chose, mais peu importe, c'est la version courte, le credo, si, peut-être quelqu'un l'a mis en musique, hein, « je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant », etc. Bon, si on chante ça en réunion, mais d'ailleurs, accessoirement, ça serait super de le faire. C'est dans un sens ça loue Dieu, mais c'est une confession de foi. Il y a des chants où c'est plus pour nous rassembler. Il y a des chants qui sont de l'exhortation, pas de la louange, comme dans les psaumes, et c'est normal. Voilà, donc Alors maintenant, il me faut bien parler du chant en église. Alors, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise. La bonne nouvelle. Attendez, je vais faire quelque chose d'intelligent d'abord. Pour ceux qui écoutent l'enregistrement, ce qui était intelligent, c'était de boire. Le Nouveau Testament relie le chant à la parole de Christ. Voilà. Colossiens 3, 16, que la parole de Christ habite en vous avec sa richesse. Alors, on se dit, bon, ça veut dire, je me remplis de l'écriture. Amen, ça veut dire ça. Et cependant, le verset continue, et instruisez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chanter des psaumes, ça veut dire chanter l'écriture. Chanter des hymnes, ça veut dire chanter des cantiques. Le mot hymne signifie des chants graves. D'abord, techniquement de tonalité grave, comme la voix de Joël, mais plus largement quelque chose de solennel. Et le chant qu'on a chanté, alors on a chanté beaucoup, donc après ça s'entrechoque dans mon cœur et dans ma tête, mais il y a combien ce nom est glorieux, combien ce nom est glorieux, c'est solennel. Il y a des choses solennelles, c'est-à-dire... solennel. C'est pas une question d'ambiance, c'est qu'on chante des choses lourdes. Hein, le mot ancien pour gloire en hébreu veut dire poids, des choses lourdes. L'amour éternel de Dieu, c'est solennel, c'est lourd. Ça, la prédestination, c'est lourd. L'expiation, le Gethsémané, la crucifixion. On a chanté le sang, la sueur. C'est lourd. Voyez, je ne parle pas émotivement lourd. C'est pas ça que je veux dire. Hein. Que je sois très ému et que je pleure quand je sente ça, quand je chante ça ou pas, ça ne change pas le poids. C'est le poids de la vérité. Ça veut dire c'est lourd de vérité. Il y a une belle expression française. On dit c'est lourd de sens. Ben voilà. Donc chanter des hymnes, c'est ça. On chante des choses lourdes de sens. Et puis, des cantiques spirituels, ça inclut évidemment chanter en langue. Il est possible que ça signifie plus, probablement. Amen. C'est Jésus qui dit, quand lui, l'Esprit de vérité sera venu, il vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Ça veut dire que si c'est l'Esprit qui me fait louer ou qui me fait écrire des chants, si j'écris des chants de louange, ce que l'Esprit veut, c'est que se retrouvent là des choses que Jésus a dites. Et c'est doublé, il dit bien des choses que moi je vous ai dites. C'est vraiment ça. Et en grec, ça apparaît un renforcement du sens. C'est, si vous voulez, ça ne peut se traduire rigoureusement par des choses que je vous ai dites. Ça doit se traduire, c'est traduit par des choses que moi, je vous ai dites. Voilà, vous aurez compris que je suis resté christocentrique. Voilà. Hein? Attends, j'ai pas fini la bonne. Et pourquoi louer en parole ou avec chant et musique, louer en utilisant les paroles que Jésus a dites? Parce que c'est dans ces paroles qu'il y a la vertu. Vertu, la capacité à faire arriver les choses. Et la musique, le chant, ou la musique spécialement, est au service de cette vertu. Elle n'a pas de vertu en elle-même. Elle a des effets humains sur l'âme, bénéfiques, d'autres un peu moins, des fois, ça dépend de quelle musique, mais là, elle est au service de sa parole. Et c'est pour ça qu'il dit que la parole de Christ habite en vous avec sa richesse, et puis il dit psaumes, hymnes, chants spirituels, etc. Alors, donc si vous voulez, en fait, il faut écrire des chants qui citent l'écriture. pas, alors, beaucoup, la majorité des chants, quoique, s'y réfèrent plus ou moins. Beaucoup de chants décrivent l'effet que Dieu produit sur moi. Donc je chante ce qui est dans mon âme. Et David le fait, et d'autres dans les psaumes. Et c'est légitime, mais c'est autre chose des chants qui citent l'écriture, carrément texto, éventuellement un tout petit peu reformulé à cause du rythme ou que sais-je, et comme il y a plusieurs versions, voilà. Après, il faut soumettre ça à quelqu'un qui a de la richesse théologique, et voilà, il faut écrire des chants comme ça. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on gagne à faire ça ? Parce qu'en faisant ça, la proportion de nos chants où nous confessons Dieu tel qu'il se dépeint lui-même va augmenter, et la proportion des chants où nous le décrivons tel que notre vécu l'a perçu sera un peu moindre et restera, voilà, il faut les deux, mais il n'est pas normal. C'est pas normal si la proportion des chants où on confesse Dieu tel qu'on le perçoit est majoritaire. Voilà, alors ça a peut-être rien à faire d'un message adressé à l'église entière, quoique la mauvaise nouvelle. Alors c'est fact, pardon, ça va? Oula, il est midi, mais j'arrive au bout, hein. En tout cas, je suis plus près de la fin que du début. Donc c'est factuel aussi, c'est un fait. La mauvaise nouvelle, le Nouveau Testament ne mentionne ni don de louange, ni chantre, conducteur de louange, équipe de louange, etc. Voilà, c'est pas, silence total. Mon pauvre. Pourquoi ? Alors, et pourtant, le Saint-Esprit a fait écrire beaucoup de choses sur des dons, des ministères, et même la libéralité, c'est un don, dans Romains 12, etc. C'est impressionnant. Il dit plein de choses. Alors, quand même, dans le nombre, ils auraient pu mettre quelque part quelque chose. Rien. Pourquoi ? À cause de 1 Corinthiens 14, 23. Alors, je tiens déjà tout de suite à dire que la mauvaise nouvelle va en devenir une bonne, évidemment, parce qu'avec Dieu, c'est toujours comme ça, du moins pour les siens. Donc, de ce silence, nous ne concluons pas qu'il ne faut pas... OK. Parce qu'il y a un autre silence factuel, c'est que le Nouveau Testament ne mentionne pas d'instrument de musique pour le chant en Église. La seule fois qu'il parle d'instrument, c'est soit le fils aîné de la parabole qui entend la musique et les danses, soit dans l'Apocalypse, donc dans le ciel. Mais quand il parle des églises, pareil, silence. Nous n'en déduisons pas qu'il ne faut pas de musique dans l'église, parce que tout l'Ancien Testament montre quand même assez largement que Dieu n'est pas opposé à la musique. Hein? Réveille-toi mon âme, réveillez-vous mon luth et ma harpe. OK. Cependant, il y a un silence. Pourquoi ? 1 Corinthiens 14, verset 20. Eh bien, là, c'est dans mes notes qu'il y a l'erreur. Et c'est dans ma tête qu'elle y était pas. C'est verset 26. Alors, 23 aussi, hein, c'est super beau. Mais non, c'est 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, chacun a-t-il un cantique, une instruction, c'est-à-dire un élément des fondements de la catéchèse, si vous voulez, l'enseignement des fondamentaux, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Et le mot, tous les mots sont vitaux là-dedans. Mais pour ce que je veux partager aujourd'hui, le mot clé, c'est chacun. Chacun a-t-il. Et dans le nombre, il y a un cantique. Alors, Je ne veux pas d'abord traduire ce verset en mode d'emploi de dimanche matin. Est-ce que seulement ceux qui conduisent la louange choisissent les chants, ou est-ce que quiconque propose des chants? C'est pas premièrement sur ce genre de réflexion. Enfin, ce n'est pas ce genre de réflexion que je suggère premièrement, même s'il n'est pas dénué de sens. Ce que je veux relever, c'est que d'un bout à l'autre, le Nouveau Testament enseigne que tous les rachetés sont sacrificateurs du Très-Haut. Sacrificateurs. Et sacrificateurs, une des choses, c'est qu'ils présentent l'offrande à Dieu. Voilà. Vous le savez, hein, et il a fait de nous, il nous a déliés littéralement de nos péchés par son sang. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et beaucoup d'autres endroits, c'est écrit. Voilà. Le rôle que l'esprit attribue au corps est rempli par chacun. Et ce rôle, c'est beaucoup de choses. C'est prier, c'est prophétiser, c'est exhorter, c'est veiller les uns sur les autres, c'est écrit. C'est aussi se supporter et c'est louer Dieu. Et donc, ce silence dans le Nouveau Testament, il est motivé par ça, par le fait que Dieu ne veut pas que les membres de son peuple oublient qu'ils sont tous appelés à être acteurs dans la louange envers Dieu. Amen. Voilà. Donc ce rôle, il doit être rempli par chacun et non pas transféré à une équipe de louange. Vous direz, t'as un problème à les équipes de louange, toi. Alors non, enfin quoi que, des fois, ça arrive. Mais bon, enfin non, moi j'en ai aucun, mais des fois il y a des problèmes internes. Non. Alors, dans l'équipe de louange. Alors, les choses se font dans le corps de Christ grâce à ce que Dieu a mis dans le cœur des uns ou des autres, de tous, mais pour tel domaine, particulièrement elle ou lui, pour exhorter, pour la patience, pour veiller, pour... On n'a pas les mêmes amplitudes, et donc forcément certains auront une amplitude plus ample pour la reconnaissance et la louange. Et ceux-là, donc ils sont portés davantage à glorifier Dieu. Et donc ils exercent une sainte influence. Qu'ils soient musiciens ou pas. Si quelqu'un a dans son cœur, si vous voulez, une coloration plus marquée pour la reconnaissance, il exerce, il influence ses frères et sœurs vers la reconnaissance. Même s'il n'est pas musicien et qu'il n'entende jamais un chant. Vous voyez ? Voilà. Alors, bien évidemment que ces gens-là, si en plus ils sont musiciens, et si leur piété est reconnue, la piété, c'est bien honorer Dieu. S'il est reconnu dans le corps que ce qui les intéresse, c'est d'honorer Dieu et non de chanter. Vous comprenez, hein, de faire une prestation. Bien, il n'y a aucun souci que ça forme une équipe de louanges. La seule chose que l'auteur du Nouveau Testament, c'est-à-dire le Saint-Esprit, attend de l'Église, c'est qu'elle ne croit pas qu'on ne peut louer Dieu que ainsi. Voilà. Tant qu'on ne croit pas que sans équipe de louange, le culte est fichu, il n'y a pas de souci. Vous comprenez ? Voilà. Amen. Donc, à ce moment-là, ceux qui conduisent la louange, Il se manifeste aussi comme petit frère ou petite sœur de Jésus. Qu'est-ce qu'on a dit au début? Jésus entonne la louange. Et donc si quelqu'un entonne, alors cette fois-ci c'est technique aussi, il y a le juste ton, la tonalité, mais là c'est pas ça que je veux dire. Ceux qui conduisent la louange donnent un ton de piété. En vérité, c'est celui qui préside, le premier, qui donne un ton de piété. Mais après, ils entretiennent, ils continuent ça, un ton de piété. Et l'un des effets bénéfiques, c'est que ce n'est pas tellement ce que tu dis ou les gestes que tu fais là, mais c'est le cœur que tu as là. Il donne un ton aux autres cœurs. Je me rappelle, c'est une chose qu'on m'avait dite quand j'étais tout jeune responsable d'église, donc je n'ai jamais chanté parce que il y aurait eu la mousson. Mais un jeune chrétien m'avait dit, toi quand tu loues Dieu, et j'étais juste, c'est que j'étais assis en face de lui, il me voyait, j'étais devant parce que voilà, j'ai dirigé la réunion, et il m'a dit, quand tu loues Dieu, ça me donne envie de le louer. Et là, j'ai compris quelque chose. Je ne l'ai pas compris pour ma personne spécialement. Je me suis dit, mais en fait, on est tous comme ça pour quelque chose. Voilà. Alors, une fois, c'est toi qui donnes à lui l'envie de persévérer. Et une fois, c'est lui qui donne à elle l'envie d'être reconnaissant. Voilà. On se doit quelque part, on se le doit. En vérité, si vous me larguez tout seul dans la campagne sans le corps de Christ, ma reconnaissance n'est plus la même. On va dire, mais tu as Dieu avec toi, le Saint-Esprit dans ton cœur et tout. Oui, mais ce Saint-Esprit-là, il veut que je vive dans ce corps-là, dans le corps de Christ. Voilà, c'est l'Esprit de Christ, il veut que je vive dans le corps de Christ. Amen. Voilà, je pense que probablement il serait sage de s'arrêter. Un petit mot. Deux minutes. La musique agit sur notre âme, pas sur Dieu. Voilà. La musique agit sur notre âme, pas sur Dieu. Psaume 57, verset 9, « Réveille-toi mon âme, réveille-toi mon luth, ainsi que ma harpe. » Donc la mélodie, elle dispose mon âme. Et elle sert aussi à une chose, c'est que c'est la même pour tous. Elle rassemble nos âmes. Voilà, elle rassemble nos âmes. Elle est, si vous voulez, la mélodie en réunion et seule, ben ça nous fait du bien, elle est comme l'eau chaude qui ouvre les pores de la peau. Et quand après vient la pommade, l'onguent, ce qui doit soigner, ce n'est pas l'eau chaude qui soigne, mais ce qui vient après pénétrera mieux. Et en cela, la mélodie ne sert pas à créer une atmosphère, même pas à me faire envoler, elle porte l'écriture. Et c'est l'écriture, c'est la parole vivante qui pénètre jusqu'à diviser âme et esprit. C'est très important. C'est très, très important. Voilà. Et bien sûr, la mélodie fixe les paroles dans nos mémoires. Et la moitié des versets bibliques qu'on sait par cœur, c'est parce qu'on les a chantés. On se rappelle mieux les paroles. Voilà. Je suis en train de réaliser que j'ai rien dit sur adorer. Cet après-midi ? Tout le monde est là cet après-midi? Dans la Bible, adorer ne signifie pas chanter, ni même louer, mais signifie prosterner sa vie entière devant l'Éternel et lui appartenir. Voilà. Le sens, ça se comprend entre Genèse 22, 5, c'est la première fois où le mot apparaît, nous irons adorer, et Abraham dit ça, alors qu'il va sacrifier Isaac. Et il appelle ça adorer. Et puis, le sens s'éclaire avec Apocalypse 4, ils jetèrent leur couronne. Voilà. Si vous voulez adorer Dieu, c'est plus près de perdre sa vie pour lui que d'être confondu d'émotions devant ses bienfaits. Ça, c'est de la reconnaissance. Adorer n'est pas lié à ce que je dis et encore moins au chant. C'est prosterner ma vie et c'est perdre ma vie pour Jésus et pour l'Évangile. Amen.